Je disais, merci Seigneur, quelle parole de foi. Je suis tranquille car tu es là. Je ne sais pas si on mesure vraiment la portée de cette parole-là, mais moi, quand je prononce cette parole-là, ça me traverse les tripes. Je suis tranquille car tu es là. Est-ce qu'on le dit en ajoutant la foi ou on le dit parce que c'est une parole qu'on prononce? Moi, je crois que chacun de nous ici ce soir dit cela parce qu'on ajoute la foi. Nous sommes tranquilles car Seigneur, tu es là. Alléluia.
Amen.
Amen. Alléluia.
Amen.
Amen. Seigneur, nous te bénissons. Baissons la tête, on va prier pour la parole, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci encore une fois que tu nous permets de nous réunir au devant de toi. Père, ce n'est ni par la force, ni par notre propre intelligence, mais c'est par ton esprit que, Seigneur, nous allons aborder, Seigneur, ce petit moment de partage ensemble. Nous prions que, Seigneur, cela fasse du bien à quelqu'un, que cela brise des chaînes, que cela fasse tomber, Seigneur, des murs. Seigneur, que cela fasse, Seigneur, produire des fruits dans la vie de quelqu'un ce soir. Nous te bénissons parce que nous savons que ta parole est vie et force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen.
Ce soir, nous allons partager quelque chose de très intéressant. On a l'habitude, nous tous, on le dit, on a l'habitude de le dire, mais on prend pas. Ça n'a pas grande importance dans notre vie. Or, c'est ce qui a permis à notre Dieu de créer le monde. C'est ce qui a permis à notre Dieu de faire venir son Fils sur la terre. Et cette chose a été faite même chair. Qui peut me dire c'est quoi? Amen. Sois béni. La parole fut faite chair dans notre vie. La parole est conçue, elle est venue parmi nous. Mais souvent, comment est-ce que nous considérons les paroles qui viennent de nous ou qui sortent de nous? Quel poids elles ont quand nous les sortons de la bouche? Ce soir, Dieu va nous permettre de comprendre l'importance de nos paroles. L'exemple qui a été pris est dans la vie d'une personne qui, ma foi, qui a connu cette parole-là. Elle le savait, mais la considération de cette parole, la portée de ces paroles ont eu un effet néfaste sur sa vie. Ça me fait mal parce que elle avait tissé une alliance et que sous cette alliance-là, elle était protégée, mais elle n'avait pas compris. Et il y a plusieurs personnes qui ont aussi n'ont pas compris la portée de leurs paroles et qui ont eu un effet dans leur vie. L'exemple est pris sur Rachel et d'autres figures bibliques qui sont aussi des hommes, dans la Bible aussi, qui eux aussi, qui n'ont pas su la portée de leurs paroles. La parole prononcée et son accomplissement. La parole qui est prononcée et qui part à son accomplissement va traverser certaines étapes. Et ces étapes-là, ce soir, nous allons les voir. Trois étapes que la parole va traverser. Ce principe biblique est toujours actif dans la vie du disciple du Christ aujourd'hui. Jésus lui-même a enseigné que nos paroles reflètent notre cœur et déterminent notre destinée. Vous vous rappelez, j'avais déjà parlé sur la destinée. Mais aujourd'hui, on va voir comment est-ce que notre parole reflète notre cœur et agit sur notre destinée. Notre objectif ce soir va être sur 5 points. Montrer la puissance spirituelle des paroles dans la Bible, comprendre le lien entre parole et action et accomplissement, parce qu'il y a la parole qui est prononcée, il y a la parole qui devient action et qui part à son accomplissement. On va faire ces trois étapes-là. Et ensuite, nous allons nous aider nous-mêmes en tant que croyants à parler selon la foi et non selon le désir de notre chair. Ensuite, on va prononcer des paroles de foi pour briser toute chaîne qui est liée dans notre vie par nos propres paroles ou par la parole de quelqu'un d'autre. Alléluia.
Amen.
Et ces trois étapes, nous allons prendre d'abord la première étape. La parole qui a été prononcée, que j'ai intitulée, la parole qui a été prononcée sous le coup de l'ignorance, la naïveté ou la souffrance. On va prendre le Genèse, le chapitre 30, le verset 1. On va le lire ensemble. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur. Et elle dit à son mari, qui était Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Si vous prenez d'autres versions, elle va dire « Prie en sorte que j'ai un enfant ou je meurs. » Rachel n'a pas vu l'importance de cette parole. Rachel, je vous raconte l'histoire. Rachel est la dernière d'une famille avec des frères et des sœurs. Et Rachel a croisé la première Jacob qui venait voir son oncle Laban. Je vais vous épargner l'histoire parce qu'elle est très longue. Et quand elle a croisé Laban, quand elle a croisé Jacob, l'amour de Jacob s'est émerveillé d'elle. Et il est parti voir, il allait habiter chez son oncle. Et quand il allait habiter chez son oncle, quelques temps plus tard, Jacob a décidé d'épouser Rachel. Son oncle Laban, sachant que la coutume du pays était qu'on marie d'abord la grande sœur avant la petite sœur, n'a pas dit cela à Jacob. Et Jacob est tombé dans le piège de Laban et il a épousé la grande sœur. Et ensuite, Rachel est venue. Elle était la dernière des nids. Alors, quand Rachel et Léa, qui était la sœur de Rachel, la plus grande, quand les deux ont épousé la même personne qui était Jacob, ils vont s'en suivre un combat. Ce combat, il est écrit dans la Bible parce que quand Rachel va dire certains mots, et que Léa va dire certains mots, vous allez sentir dans les paroles de Rachel et de Léa, une va dire, tu m'as donné la victoire sur mon ennemi, tu as lavé mes souffrances, tu as lavé mon opprobre. Ça a vu qu'il y avait un combat entre les deux sœurs. Léa a fait 4 enfants, Rachel n'avait pas encore d'enfants. Et Rachel, tellement qu'elle avait mal, elle allait voir son mari Jacob, elle a dit, donne-moi un enfant. Si tu ne me donnes pas d'enfant, je meurs. Alors Jacob va répondre à Rachel en lui disant, mais je ne suis pas Dieu. Est-ce que je suis Dieu? Je ne suis pas Dieu pour te donner un enfant. C'est à Dieu que tu dois te rapporter pour l'enfant. Mais Rachel, elle ne comprenait pas cela. Elle n'avait pas compris l'importance de la parole qu'elle venait de dire. Donne-moi un enfant ou je meurs. Waouh, c'est fort Rachel. Elle n'avait pas compris l'importance de la parole qu'elle venait de dire. Donne-moi un enfant ou je meurs. La Bible déclare que la parole est vie. On prend dans Proverbes le chapitre 18, verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que nous disons, nous le prophétisons sur notre propre vie. Rachel venait de prophétiser quelque chose qu'elle ne savait pas. On va continuer, vous allez voir. Rachel venait de semer, sans le savoir, une semence verbale de mort qui portera plus tard son fruit dans sa vie. Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 à 11. On va voir. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Quand Jésus est allé dans le désert, il y a eu un combat entre lui. Quand il devait rentrer dans son ministère, il y a eu un combat entre lui et le diable. Ce combat ne s'est pas passé sous une forme de karaté, ou bien lever les poings, ou bien se battre avec des poings. Non, ce combat que Jésus a eu avec le diable a été verbal. Et quand on lit le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 à 11, on va voir qu'il y a eu un combat verbal entre Jésus et le diable. Il a dit que quoi? Jésus dit, le diable dit, c'est moi, je te donne telle chose. Jésus dit, non, je ne te sais pas. La parole dit. Il dit, c'est moi, je te donne le monde. Jésus dit, non, la parole dit, tu ne serviras pas. Il a eu parole contre parole pour briser ça. Donc nous savons que dans notre vie aujourd'hui, quand nous marchons, nous devons prendre conscience que les paroles que nous sortons de notre bouche ont un poids immense. Et Jésus nous l'a prouvé parce que c'est par la parole qu'il a vaincu le diable. C'est par la parole qu'il a prophétisé en ayant tout le monde entier. Le diable, sachant qu'il ne pouvait pas l'avoir par la parole, il l'a envoyé sur la montagne en lui disant, regarde, je te donne tout ceci. Visiblement, Jésus dit, non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Parole contre parole. Rachel n'avait pas compris. Nos paroles sont des semences. Matthieu 12, verset 37 dit, tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Rachel venait de se condamner par ses propres paroles. La deuxième étape, elle agit en pensant peut-être assurer sa sécurité, préserver un héritage. L'histoire va se suivre. Rachel va continuer dans le temps. Elle a continué. Dieu merci. Puisque avec le temps, Jacob, avec ses prières, Rachel a fini par avoir un enfant. Mais Rachel ne s'était pas arrêtée là. Rachel a continué avant qu'elle naisse cet enfant. Ça va continuer. Rachel ne va pas s'arrêter là. Quand la parole a été sortie, ça a commencé à produire quelque chose dans la vie de Rachel. Quand nos paroles sortent une fois de notre bouche, quand le négatif se met en place, alors va commencer à s'en suivre. Parce que le diable sait qu'il ne peut pas t'avoir. Il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu prononces les paroles qui sont des paroles de vie et de force, qui vont produire des fruits, il sait qu'il ne pourra pas t'avoir. Et il ne pourra pas agir selon ces paroles. Alors, qu'est-ce que lui te fait faire? Il te fait prononcer les paroles négatives. Et quand tu prononces la parole négative, il s'est saisi de cette parole en tant qu'enfant de Dieu. Il s'est saisi de cette parole-là et maintenant, il commence maintenant à mettre les pièges maintenant sur toi, sur le chemin pour que tu puisses tomber. Alors, on va voir la deuxième étape. Comment est-ce que le diable a commencé à pousser maintenant Rachel dans le fait qu'elle puisse aller commettre encore plus d'actes et à tomber encore dans son plan? On va prendre Genèse, le chapitre 31, le verset 19. Genèse, le chapitre 31, le verset 19. Quand Laban était parti tondre ses moutons, en partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. Rachel, qui avait prononcé la parole négative, va passer une deuxième étape. Elle va maintenant aller voler maintenant les idoles de son père. Cette action révèle une contradiction spirituelle. Rachel connaît le Dieu de Jacob, comme aujourd'hui nous, en tant que chrétiens, nous avons une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais elle se tourne encore vers les idoles, s'enfonce davantage. Elle avait prononcé une parole de mort sur sa vie. Rachel vient encore voler maintenant les idoles de son père. Comme si elle n'avait pas l'assurance en Jésus-Christ de Nazareth, comme si elle ne connaissait pas le Dieu de Jacob. Elle savait qu'elle avait tissé une alliance qui était nouvelle. Elle était sous une couverture spirituelle, mais Rachel n'avait pas pris conscience. Comme aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous ne savons pas que nous avons tissé une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Cette alliance qui nous rassure, cette alliance qui nous protège, qui prend soin de nous, mais on n'a pas conscience de cela. On a encore certaines idoles dans notre vie. Quand je parle d'idoles, ça peut être plusieurs idoles que nous connaissons dans notre vie. Plusieurs idoles, je ne les citerai pas, mais il y a plusieurs idoles dans notre vie. Mais nous, en tant que serviteurs, or, selon Exode, le chapitre 20, le verset 3 à 5, Dieu déteste l'idolâtrie et ses conséquences s'étendent jusqu'à la descendance. Vous vous imaginez? Les idoles auxquelles nous nous attachons s'étendent jusqu'à la descendance. C'est-à-dire que tu peux prononcer une parole négative et non seulement elle va passer par toi, mais elle va aller sur la descendance qui va venir. Mais Rachel n'avait pas pris conscience. Ainsi, Rachel ouvre une porte spirituelle qui permettra l'accomplissement de sa parole, de la parole de mort qu'elle avait prononcée. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va aller encore de mal en pire. Tout à l'heure, je venais vous dire, quand une parole négative est prononcée, frères et sœurs, quand une parole qui ne va pas dans le sens du Christ, où le Seigneur Jésus puisse s'appuyer dessus pour aller, cette parole-là, quand elle est prise par le diable, alors il commence une certaine forme de manipulation par le diable pour que cette parole-là parvienne à son accomplissement. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Rachel. Quand on prend Genèse, le chapitre 31, verset 34, Rachel est partie se mettre encore plus d'avantage dans le mal. Non seulement elle a volé les idoles, ils ont parcouru un certain chemin avec Jacob. Jacob est parti de chez Laban. Et Laban a constaté que ses idoles avaient disparu. Il a poursuivi Jacob. Il a poursuivi pour pouvoir le rattraper. Quand il a rattrapé, il a demandé ses idoles. Rachel a pris ses idoles. Elle les a cachées sous un chameau. Et puis elle s'est assise sur les idoles. Rachel. Quand je pense à ça, ça me fait très mal. Elle était dans une alliance, elle n'avait pas compris. Elle avait tissé quelque chose de fort, mais elle n'avait pas compris. Elle a pris les idoles, elle a mis sous le chameau et elle s'est assise dessus, sur le chameau. D'où Dieu allait procréer, elle s'est assise. Regardez, la Bible déclare, Genèse, spirituellement, cette image forte. Au lieu d'être assis sous la bénédiction de Dieu, elle s'est assise sur la malédiction. Psaume 38, le verset 8 dit, « Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » C'est-à-dire que ta bénédiction soit sur moi. Mais Rachel allait s'asseoir, elle, sur les idoles. Elle a renversé, elle venait tout de suite encore de renverser la parole. Elle n'avait pas compris qu'elle venait de tisser quelque chose encore de plus fort. Elle était poussée toujours dans le mal. La parole qui a été prononcée, que je meurs, continue à suivre le chemin. La parole qui était prononcée, que je meurs, continue à marcher dans le mal. La parole continuait. On va passer à la troisième étape. Je vous ai dit, c'était trois étapes. La troisième étape, le résultat maintenant de cette parole. Je vous ai dit au début que la parole est prononcée. Il y a une action qui va se passer. Et puis maintenant, il va y avoir un résultat de cette action-là. La première, elle avait prononcé la parole. La deuxième, elle avait posé des actions. Elle avait volé les idoles. Elle s'était assise dessus. Et la troisième étape, on va voir ce que Rachel va faire. Genèse, le chapitre 35, le verset 16 à 17. Genèse, le chapitre 35, le verset 16 à 17. Seigneur, Jacob et sa famille quittèrent Bethel. Lorsqu'ils étaient encore une centaine de distance d'Éphrata, Rachel donna naissance à un enfant. Elle eut un accouchement difficile. Pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit, « Courage, c'est encore un garçon. » Quand nous lisons, quand vous prenez, moi je, la version Semeur, mais quand vous prenez Louis II, vous allez comprendre que Rachel, quand elle est en train de donner naissance au dernier enfant qu'elle allait avoir, elle a commencé à avoir une douleur très forte. Et dans cette douleur qu'elle a commencé à avoir, la sage-femme est venue lui dire, cette douleur que tu as, c'est un garçon. Elle dit, pendant les douleurs du travail, la sage-femme lui dit, courage, c'est un garçon. Mais elle se mourait. Quand on prend au verset 18, Rachel, la malédiction avait commencé à prendre effet maintenant sur sa vie. Elle allait commencer maintenant à avoir mal. Le dernier enfant qu'elle allait donner, elle allait commencer à avoir mal. La parole est prononcée, l'action est posée et maintenant le résultat va être donné. Le dernier enfant va venir maintenant créer le problème dans la vie de Rachel. Est-ce que c'est un problème ou c'est la malédiction que Rachel elle-même a prononcée sur sa propre vie? Rachel, ce n'est pas par coïncidence. Les paroles et les actes passés ont convergé pour produire ce résultat. Nous allons passer à la rédemption, mais là, nous allons comprendre quelque chose qui est très important, qui est intéressant. Rachel, maintenant, elle va aller mourir. Elle ne va pas vivre parce qu'elle a déjà prononcé une parole de malédiction. Elle ne va pas vivre. Mais nous allons dire, une représentation de Jésus-Christ de Nazareth est proche de nous. Et cette représentation était Jacob. Mais Rachel va faire encore quelque chose de pire. On va continuer. Rachel, mais elle se mourait. C'est-à-dire, à partir de, quand vous prenez le chapitre 35 au verset 18, mais elle se mourait. Dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de malheur. C'est-à-dire, l'enfant a fini par naître. Mais Rachel va mourir. Et quand elle est en train de mourir, elle a prononcé une dernière parole de malédiction sur l'enfant. Rachel, pourquoi tu fais ça? Quand tu lis la parole, c'est difficile de croire que vers la fin, pourquoi elle peut aller prononcer une parole de malédiction sur l'enfant en lui donnant le nom de Ben-Oni qui veut dire « fils de douleur ». Elle avait prononcé une parole de malédiction qui suivait son cours et qui allait, qui marchait vers son accomplissement. Mais nous allons voir qu'il y a la représentation de Jésus-Christ de Nazareth qui est proche de nous. Nous allons voir que quand une personne prononce une parole ou bien quand quelque chose part contre qui n'est pas dans la volonté de Dieu, alors, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes fils de Dieu, Jésus apparaît pour nous sauver. Jésus apparaît pour nous rappeler à lui. Jésus apparaît pour défendre notre cause. Et pour cet enfant, la personne qui est apparue pour défendre sa cause, c'était son père, Jacob. Par miséricorde et révélation, Jacob va changer le nom de Ben-Oni, qui va devenir Benjamin. Jacob n'a pas attendu 10 ans, il n'a pas attendu 5 ans. Rachel a prononcé le nom. Tout de suite, quand Jacob a récupéré l'enfant, quand sa mère est morte, il dit, je change ton nom, je t'appelle Benjamin. Fils de ma droite ou fils de la bénédiction. Jacob représente le Christ pour toi et moi. Jacob représente celui qui est venu sauver. Jacob représente celui qui est venu comme Christ pour nous sortir de là où les malédictions étaient prononcées sur notre vie, où des malédictions ont été dites, où des paroles ont été inventées, où des paroles ont été dites. Jésus-Christ est venu pour laver cela. Mais si toi-même tu ne crois pas par la parole et que toi-même tu prononces des paroles sur ta vie qui sont négatives, comment est-ce que tu veux? Ça suit son cours. Ça suit son cours. Si tu n'as pas une personne spirituellement posée au devant de toi, si tu n'as pas de paix spirituelle, si tu n'as pas des serviteurs de Dieu pour prononcer le contraire de cette parole sur ta vie, imagine-toi. Imagine-toi. Jacob a changé le cours du destin de son fils. Benjamin est devenu le fils de la bénédiction. Je vais parler de d'autres exemples. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement que Rachel. Il y a d'autres exemples dans la Bible qui se sont parlés. Prenons l'exemple de Jephthé. Vous vous rappelez de Jephthé? Qui connaît Jephthé? Non, Stéphane, je ne dis pas toi. Je sais que tu connais. Le pasteur aussi connaît. Ah ben voilà, Manu connaît. Tu te rappelles de Jephthé? L'histoire de Jephthé? Oui, exactement. Amen. Sois béni. Jephthé est devenu roi. Je ne vous raconterai pas l'histoire, c'est très long. Mais Jephthé est devenu roi. Il doit aller en guerre pour aller combattre les fils d'Ammon. Et Jephthé fait une promesse à Dieu en disant au Seigneur, si je pars et que je gagne ce combat, la première personne, quand je vais rentrer chez moi, la première personne qui va sortir de la maison, je vais lui donner un sacrifice. Mais Jephthé, tu ne sais pas qui va sortir de chez toi. Tu ne sais même pas qui va sortir de chez toi. Qui va sortir de la maison, tu ne sais pas. Si c'est ton esclave, si c'est ton chef, si tu ne sais même pas, Jephthé. Mais il promet, il dit au Seigneur, je te promets, la première personne qui sort de ma maison, je te donne un sacrifice. Quand il a fini, il a remporté le combat. Et puis, très grand Dieu, Dieu a fait sa part. Et qui est sorti en premier lieu? C'est sa propre fille, son unique fille. Il était obligé d'accomplir ce qu'il a dit au Seigneur. Jephthé était obligé d'accomplir. Les paroles que nous sortons de notre bouche ont un effet, un impact dévastateur que nous ignorons. Jésus l'a prouvé en combattant le diable. Jésus l'a prouvé en prophétisant sur ses disciples, lui-même ses disciples. Il a dit à Pierre, tu deviendras Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Dès l'instant qu'il a croisé Pierre, Pierre a passé par les étapes. Mais sur Pierre, l'église a été fondée. Pierre a passé par des difficultés. Mais sur Pierre, l'église a été fondée. La parole que nous sortons de notre bouche. Nous prenons le cas de Moïse. Vous vous rappelez, quand on prend le nombre, le chapitre 20, le verset 10 à 12. Moïse, Dieu lui dit, va taper le rocher. Mes enfants souffrent, va taper le rocher pour que l'eau puisse sortir. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement avant de taper le rocher, il a prononcé une parole. Et après la parole, il a tapé le rocher deux fois. Quand il a fini de taper, Dieu dit, ok. Tu ne verras pas Canaan. Toi et Josué, vous ne verrez pas Canaan. Quand vous prenez le livre des Nombres, lisez juste avant. Vous allez comprendre qu'il a prononcé une parole d'abord. Avant de dire au peuple, ok, je vais taper deux fois. Cette parole qu'il a prononcée, Dieu dit, tu ne verras plus Canaan. La propre parole de Moïse l'a condamné. Comme Rachel, beaucoup ont prononcé des paroles qui les ont liées. Mais en Christ, il y a la rédemption. La restauration. Rachel nous enseigne que les paroles ont un pouvoir créateur. Les actions les confirment et Dieu veille sur elles pour les accomplir. Dieu veille sur nos paroles pour les accomplir. Dieu marche, il est au devant de nous. Combien de fois nous prenons conscience que Dieu marche? Je vais vous faire voir quelque chose. S'il te plaît, Sacha. Vous allez voir comment est-ce que nos paroles prennent vie en chacun de nous. Nous, en tant qu'individus, nous, en tant que chrétiens, nous sommes des récipients. Et ce récipient absorbe. Ce récipient que nous sommes absorbe. Merci, Sacha. Reste là avec moi. Reste là avec moi. Ouvre la bouteille. Avant que nous ne venions en Christ, nous sommes comme ça. Vous voyez le verre? Et quand nous connaissons Christ, nous sommes comme ça. Vous voyez le verre? Il est pur. On est tous saints. Dieu nous a lavés, il nous a purifiés de son sang. Et il nous a fait tel que nous sommes. Alors Sacha, tu vas attraper ça? Tu vas attraper le verre? Tu vas prendre le bol dans le bol pour ne pas qu'on mouille. Voilà. Et tu portes le verre avec une main. Et quand tu te lèves le matin, Seigneur, je ne suis pas content. Seigneur, je souffre. Seigneur, je suis moi seul dans la vie, je n'ai rien, je ne réussirai pas, je ne vais pas avoir. Seigneur, ils sont plus heureux que moi. Seigneur, et tu vois, ça coule. Tu vois, le verre est rempli et ça a changé de couleur. Regarde les paroles négatives qu'on met dans notre vie tous les jours. Mais en plus de cela, les paroles négatives qu'on met sur nos vies, regarde ce que ça fait, ça coule. Donc du coup, on influence tous ceux qui sont autour de nous. Négativement, sans le savoir. Rachel allait influencer son propre fils. Elle allait prononcer une parole de malédiction sur sa vie. Sans le savoir, la première parole qu'elle a dite, ça continuait, elle a continué, elle ne s'est pas arrêtée. Mais regardez quelque chose. Ce soir, tu peux attraper le vin? Jésus va nous purifier. Ce soir, Jésus va nous purifier. On reprend la couleur que Christ a dit. On reprend parce que ce soir, on va prononcer des paroles de bénédiction sur notre vie. On va prophétiser et tout ce qui était mal passera au nom de Jésus. Amen. Sacha, merci. C'est ça qu'elle a réalisé. Nous sommes des récipients. Et quand nous comprenons cette vérité, les paroles négatives ne doivent plus sortir de notre bouche. Le disciple de Christ que nous sommes appelés est appelé à renverser les paroles de malédiction et à proclamer la vérité de Dieu. Notre bouche est un instrument spirituel. Ce que nous disons façonne notre futur. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous choisissons de parler la vie, la paix et la bénédiction. Apprenons à apaiser notre mot. Déclarons la vie, la guérison, la restauration sur nos familles. Parlons selon la foi et non selon la peur. Brisons toute forme de paroles de mort prononcées contre soi, contre les autres. Quand nous prenons dans le livre de Romains, le chapitre 19, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé. Je prophétise sur ta vie que toute parole qui a été dite négativement ne passe pas au nom de Jésus. Je dis, mon Christ, Jésus qui vit dans le ciel, celui que tu pries, celui que je prie, change la nature de toute parole négative qui a été prononcée. Je prie et je le dis qu'aujourd'hui, ton chemin est déblayé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen.
Amen.
Dis amen.
Amen.
Dis amen.
Amen.
Je prophétise que la bénédiction te suive, que ton chemin soit éclairé au nom de Jésus. Prophétise sur quelqu'un à côté de toi. Parle sur sa vie. Tu as le pouvoir. La Bible déclare que nous avons le pouvoir. La mort et la vie sont à nos langues. Parle sur la vie de quelqu'un. Je prophétise. Au nom de Jésus, ton chemin est éclairé. Le diable n'a plus rien en toi. Je prie que ton chemin est élevé. Lève la voix. Parle sur la vie de quelqu'un. Parle sur la vie de quelqu'un. Je prophétise que tu es élevé, tes enfants réussissent. Je prie que la bénédiction te suive. Que tu es l'homme de Dieu que Dieu veut. Au nom de Jésus, je prie. par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise que la bénédiction te suive. Toute parole négative qui a été prononcée par nos ennemis, toute parole négative qui a été prononcée par nos ennemis dans le secret, ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Crois quand Jésus dit, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne et toutes ces paroles négatives n'ont aucun effet sur toi, ni sur tes enfants, ni sur ta génération. Personne n'aura ce malheur. Au nom de Jésus, Rachel a commis cette erreur. Jephthé a commis cette erreur. Moïse l'a fait et plein d'autres hommes dans la Bible. Mais nous, nous ne le ferons pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que nous, on connaît aujourd'hui la vérité. La vérité nous a franchis. Toute chose ancienne est passée. Toute chose, tout ce qui est maladie est passé au nom de Jésus. C'est une vérité, je te le dis. La maladie n'a pas de pouvoir. À force de répéter la maladie dans ta vie, à force de prononcer cette maladie, elle finit par prendre forme et tu prends des habitudes et tu commences à marcher selon cette maladie. Non, c'est du mensonge. Tu n'es pas malade parce que Jésus t'a guéri. Seigneur, je prie par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je crois en ta parole et je sais il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour elle. Viens, mon frère. Vous savez, dans cette église, nous sommes bénis. Arrête-toi pas devant. Dans cette église, nous sommes bénis. Il y a le feu et la flamme du Seigneur qui est dans cette église. Il y a des hommes et des servants de Dieu puissamment oints qui sont dans cette église, qui prient et qui guérissent. Qui prient et l'Esprit de Dieu se manifeste. Nous allons appeler le pasteur pour prier pour notre frère. Si tu as besoin de prière, c'est maintenant. Si tu as besoin de prière, c'est maintenant. Une parole a été dite sur toi quelque part. Un mot a été dit quelque part sur toi. Quelque chose est venu. Mais aujourd'hui, la parole du serviteur brise cette malédiction. Dans le secret, ils ont prononcé des choses contre ta vie. Mais ce soir, je te le dis, nous allons appeler notre frère Stéphane. Nous allons appeler Stéphane Bigos. Toutes les œuvres qu'ils ont prononcées ce soir n'auront pas d'effet sur ta vie. Seigneur, nous croyons par ta puissance, nous allons appeler. Ah, il a très prié. Saint-Esprit, ta parole. Oh Seigneur, agis, manifeste-toi, Père. Détruis toute base, arrache, déracine, au nom de Jésus. La Bible déclare que nous sommes plus forts et nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une parole qui a été dite. Nous refusons cette parole. Nous refusons cette parole. Nous brisons le joug au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Élève la voix. Ne t'éteins pas. Prie. Renonce. Renonce. Refuse sur la vie de tes enfants. Sur la vie de ta famille. Sur ton travail. Parole, contre parole, Dieu, je refuse, je renonce, je n'accepte pas. Tu as dû toi-même prononcer des paroles dans des moments de colère, dans des moments de doute, dans des moments de crainte, de peur. Tu as dit des paroles, mais ce soir, tu refuses. Nous sommes dans un moment de prière. Prie! Je refuse, Seigneur. Je renonce. Si quelque part une parole a été dite, je renonce au nom de Jésus. Prie, proclame la victoire. Proclame ta victoire sur l'ennemi. Proclame ta victoire sur l'ennemi. Prie en langue. Seigneur, je suis guéri. Seigneur, je ne souffre plus. Je renonce. Au nom de Jésus, notre projet aboutisse. Au nom de Jésus, Ne t'étais pas. Parle. Dis à Dieu. Parle, tu as la victoire. Prononce des paroles. Jacob a changé la vie de son fils. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Nous nous allions sur les paroles de Dieu, source de vie. Ce que nous disons par la foi attire la bénédiction, le salut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, Saint-Esprit. Ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, ta gloire resplendit dans cette salle. Je vois ta main se lever. Je vois tes anges se lever. Élodie. Je vois les anges se lever. Je vois les anges, Seigneur. Ta manifestation de ton esprit. Abrite-moi, s'il te plaît. Nous sommes sous la coupole du Saint-Esprit. Nous sommes sous la coupole du Seigneur. Nous disons au Seigneur, nous sommes sous ton abri. Rien ne peut nous arriver. Parce que quand nous prononçons les paroles de vérité, regardez, Jésus-Christ dans son ministère, depuis le début du ministère du Seigneur jusqu'à la fin, il n'a pas sorti de paroles négatives dans sa bouche. Jésus n'a pas prononcé une seule fois de paroles négatives. Une seule fois, il n'a pas prononcé de paroles négatives.